Le piège séparatiste et le syndrome catalan. La transformation sociale fédéraliste de l'Europe revêt des enjeux qui dépassent de très loin le cadre européen. Il s'agit en effet de savoir s'il est possible d'organiser la mondialisation autrement que ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire s'il est possible de replacer les traités organisant le libre-échange et les unions commerciales dans une perspective plus vaste, celle d'accords internationaux visant à proposer un modèle de développement durable et équitable, avec des perspectives concrètes et atteignables en termes de justice fiscale, sociale et climatique. En l'absence de tels accords, le risque est que la course-poursuite vers le dumping fiscal et la montée des inégalités se poursuivront, avec à la clé le risque que les replis identitaires et xénophobes gagnent encore du terrain, habilement exploités par des mouvements anti-immigrés désireux de se porter au pouvoir. Un autre risque est ce que l'on peut appeler le piège séparatiste, que l'on a notamment vu à l'œuvre avec la tentative d'organiser un référendum d'autodétermination en Catalogne en 2017. De façon générale, il est frappant de constater à quel point les convictions régionalistes sont clivées en fonction du niveau de revenus et de diplômes en Catalogne. Quand on pose la question aux électeurs catalans de savoir s'ils soutiennent la revendication d'une plus grande autonomie régionale, pouvant aller jusqu'à l'autodétermination, on constate un soutien beaucoup plus marqué à mesure que l'on monte dans la hiérarchie des revenus et des diplômes, avec des soutiens à l'idée régionaliste atteignant 80% des personnes interrogées parmi les 10% des revenus ou des diplômes les plus élevés, contre à peine 40-50% de régionalistes parmi les 50% les plus bas. Voir graphique 16.5 et 16.6. Si on se limite au soutien à un référendum d'autodétermination et que l'on élimine les personnes favorisant une autonomie plus forte à l'intérieur de l'Espagne, on constate que le clivage est encore plus marqué. Le soutien à l'indépendance est tiré de façon spectaculaire par les catégories les plus favorisées, et en particulier par les revenus les plus élevés. On remarquera également que le soutien à l'autodétermination a fortement progressé à la suite de la crise économique qui a durement touché l'Espagne à partir de 2009-2010, avec de surcroît une lourde rechute en 2011-2013 après la mise en place des politiques d'austérité au niveau européen. Seuls 20% des électeurs catalans défendaient l'idée du droit à l'autodétermination en 2008, contre 32% en 2011 et 35% en 2016. C'est sur la base de cette rapide progression du soutien à l'autodétermination que le gouvernement catalan organisa un référendum sur l'indépendance en septembre 2017, contre l'avis du gouvernement de Madrid et boycotté par les partisans du maintien dans l'Espagne, provoquant ainsi une grave crise constitutionnelle toujours en cours. Le référendum sur l'indépendance, organisé en septembre 2017, a conduit à une victoire du « oui », 90% de « oui » contre 8% de « non » et 2% de « blanc », mais avec une participation de 42%. Il est extrêmement frappant de constater que le régionalisme catalan est beaucoup plus marqué parmi les catégories sociales plus favorisées que parmi les plus modestes. Il est particulièrement intéressant de comparer ce profil social du vote à celui observé lors des référendums sur l'Europe organisés en France en 1992 et 2005 et au Royaume-Uni en 2016, où l'on avait à chaque fois observé que les catégories favorisées plébiscitaient l'Europe, alors que les catégories modestes la rejetaient. Les deux profils sont d'ailleurs parfaitement cohérents dans le sens où les catégories favorisées qui soutiennent l'indépendance catalane ou une plus forte autonomie n'ont aucune volonté de quitter l'Europe, bien au contraire. Elles souhaitent que la Catalogne reste dans l'Union européenne, mais en tant qu'État indépendant, de façon à pouvoir continuer de bénéficier de l'intégration commerciale et financière avec l'Europe, tout en conservant leurs recettes fiscales en Catalogne. Il ne s'agit certes pas de ramener entièrement le régionalisme catalan à cette motivation fiscale. Les facteurs proprement culturels et linguistiques ont également leur importance, ainsi que la mémoire historique du franquisme et de la brutalité du pouvoir centralisateur madrilène. Il reste que la question de l'autonomie fiscale joue un rôle central dans le cas de la Catalogne, surtout s'agissant d'une région nettement plus riche que la moyenne de l'Espagne. il est naturel de penser que les contribuables les plus aisés soient particulièrement exaspérés à l'idée que leurs impôts partent pour partie dans d'autres régions. À l'inverse, les catégories modestes et moyennes sont peut-être un peu plus sensibles aux vertus de la solidarité fiscale et sociale. De ce point de vue, il est important de souligner que les règles espagnoles de décentralisation fiscale font d'ores et déjà de l'Espagne l'un des pays les plus décentralisés au monde, y compris lorsqu'on le compare à des États fédéraux de beaucoup plus grande taille. En particulier, l'assiette de l'impôt sur le revenu est partagée moitié-moitié depuis 2011 entre le gouvernement fédéral et les régions. Un tel système pose de nombreux problèmes, au sens où il met à mal l'idée même de solidarité à l'intérieur du pays et revient à opposer les régions entre elles, ce qui est particulièrement problématique s'agissant d'un outil comme l'impôt sur le revenu, qui est supposé permettre de réduire les inégalités entre les plus pauvres et les plus riches, au-delà des identités régionales ou professionnelles. Par comparaison, l'impôt sur le revenu a toujours été un impôt presque exclusivement fédéral aux États-Unis, pays pourtant 7 fois plus peuplé que l'Espagne, et bien connu pour son attachement à la décentralisation et aux droits des États. En particulier, c'est l'impôt fédéral sur le revenu qui assure depuis sa création en 1913 la fonction de progressivité fiscale et qui prélève les taux les plus élevés sur les hauts revenus. Sans doute les contribuables aisés de Californie, État qui est à lui seul presque aussi peuplé que l'Espagne et 6 fois plus que la Catalogne, auraient-ils bien aimé conserver pour eux-mêmes et leurs enfants la moitié des recettes de l'impôt fédéral sur les hauts revenus, mais ils n'y sont jamais parvenus. À dire vrai, ils n'ont jamais vraiment essayé, tant l'idée même aurait été interprétée comme une déclaration de guerre de type sécessionniste. En République fédérale d'Allemagne, exemple plus proche de l'Espagne, l'impôt sur le revenu est exclusivement fédéral. Les Länder n'ont pas la possibilité de voter des taux additionnels, ni de conserver pour eux la moindre partie des recettes, quoi que puissent en penser les contribuables bavarois. Précisons que la logique des taux additionnels au niveau global ou local n'est pas forcément néfaste en soi, mais à condition que cela reste mesuré. En choisissant de partager moitié-moitié l'impôt sur le revenu avec les régions, l'Espagne a sans doute été beaucoup trop loin et se retrouve dans une situation où une partie des Catalans voudrait maintenant conserver 100% des recettes en devenant indépendants. L'Europe porte également une lourde responsabilité dans cette crise. Outre la gestion calamiteuse de la crise de la zone euro, notamment au détriment de l'Espagne, voici des décennies que l'Union européenne promeut un modèle de développement fondé sur l'idée qu'il est possible de tout avoir en même temps. L'intégration à un grand marché européen et mondial, tout cela sans réelle obligation de solidarité et de financement du bien public. Dans ces conditions, pourquoi ne pas tenter sa chance en faisant de la Catalogne un paradis fiscal à la mode luxembourgeoise ? De fait, aux yeux de nombreux indépendantistes catalans, le projet est bien celui-ci. La constitution en État indépendant permettra de conserver la totalité des recettes pour développer la Catalogne et, s'il le faut, réduire les impôts sur les acteurs les plus mobiles afin d'attirer les investissements vers la région État. Ce qui sera d'autant plus facile que l'on se sera délesté du poids de la solidarité avec le reste de l'Espagne. Il ne fait aucun doute que la politisation de la question catalane aurait été totalement différente si l'Union européenne avait un budget fédéral comparable à celui des États-Unis, financé par des impôts progressifs sur les revenus et les successions au niveau fédéral. Concrètement, si l'essentiel des impôts payés par les hauts revenus catalans alimentait le budget fédéral européen, comme cela est le cas aux États-Unis, alors la sortie de l'Espagne n'aurait eu qu'un intérêt limité d'un point de vue financier. Pour échapper à la solidarité fiscale, il aurait fallu sortir de l'Europe, avec le risque de se faire exclure du grand marché européen, ce qui aurait eu un coût rédhibitoire aux yeux de nombreux Catalans indépendantistes. Je ne dis pas que le mouvement régionaliste et indépendantiste catalan disparaîtrait immédiatement dans un tel système, ni d'ailleurs qu'il devrait disparaître. Mais il serait fortement affaibli, et surtout, il se concentrerait sur les questions culturelles, linguistiques et scolaires, qui sont importantes et complexes, au lieu de se focaliser sur les questions fiscales et les comptes d'apothicaire entre régions. La crise catalane, telle qu'elle s'est structurée, apparaît bien comme le symptôme d'une Europe reposant sur une mise en concurrence généralisée des territoires et sur une absence complète de solidarité fiscale, logique qui contribue à conduire à toujours plus de surenchères vers le chacun pour soi. Ce cas illustre également de nouveau l'étroite imbrication entre la question du système politique et celle des inégalités, entre le régime de frontières et le régime de propriété. Dissonance idéologique, dumping fiscal et syndrome du petit pays. Il faut également souligner à quel point les tentations de la concurrence fiscale peuvent être fortes, y compris pour des communautés dont l'idéologie initiale ne penchait pas particulièrement de ce côté-là. Le Luxembourg, avant de devenir un paradis fiscal, n'avait aucune prédisposition idéologique particulière à se comporter de cette façon. Mais à partir du moment où l'organisation de la mondialisation, et en particulier les traités sur la libre circulation des capitaux, permet de se lancer dans ce type de stratégie, alors la tentation du dumping devient trop forte, quelles que soient les préventions de l'idéologie initiale. Ceci est particulièrement vrai pour les pays de petite taille, qui, relativement à la taille de leur économie, peuvent espérer attirer des investissements et surtout des bases fiscales importantes, réelles ou fictives, du monde qui les entoure, ce qui peut plus que compenser les pertes de recettes domestiques liées à la baisse des taux d'imposition sur les contribuables aisés. Un cas de dissonance idéologique particulièrement extrême est celui de la Suède. Lors de la crise bancaire suédoise de 1991-1992, le pays avait pu constater la fragilité et la vulnérabilité d'un petit pays pris au milieu de flux financiers et de mouvements de capitaux de grande ampleur. La crise aurait pu être l'occasion de repenser les dangers de la dérégulation financière des années 1980, mais en pratique, elle fut surtout instrumentalisée par tous ceux qui pensaient depuis des décennies que le modèle social suédois avait été trop loin, que les sociaux-démocrates avaient été trop longtemps au pouvoir et qu'il était temps que le pays se rapproche du nouveau modèle libéral anglo-saxon issu de la révolution conservatrice des années 1980. Une première alternance de courte durée eut lieu, en 1991-1994, mais les partis libéraux-conservateurs eurent le temps de réduire fortement la progressivité de l'impôt sur le revenu et sur la fortune, et de mettre en place, dès 1991, un taux d'imposition proportionnel réduit à 30% sur les revenus financiers, intérêts et dividendes, qui, pour la première fois, échappèrent au barème progressif d'imposition. Ce mouvement idéologique se poursuivit dans les années 1990 et 2000 et conduisit à la suppression, en 2005 et 2007, de l'impôt progressif sur les successions, puis de l'impôt progressif sur la fortune. L'abolition de l'impôt successoral décidé en 2005 en Suède, pratiquement en même temps qu'à Hong Kong, 2006, illustre la force du syndrome du petit pays. Des pays de plus grande taille, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, le Japon et les États-Unis, ont tous conservé un impôt progressif sur les successions, avec un taux appliqué aux héritages les plus importants, compris entre 30 et 55% dans ces cinq pays à la fin des années 2010. Autrement dit, les sociaux-démocrates suédois ont jugé utile de supprimer toute forme d'imposition lors de la transmission intergénérationnelle de la fortune, alors que les chrétiens-démocrates allemands, les conservateurs britanniques, les libéraux-gaullistes français et même les républicains états-uniens jugeaient préférable de maintenir cet impôt avec des taux d'imposition qui ont baissé au cours des dernières décennies, mais qui restent néanmoins très substantiels pour les plus hauts patrimoines. Lors des débats suédois sur ces questions, la peur de la fuite de capitaux vers les autres pays de la région joua un rôle essentiel. Justifiée ou exagérée, ces craintes ne conduisirent pas pour autant les gouvernements suédois à faire des propositions pour réformer les directives sur la libre circulation des capitaux ou pour mettre en place des coopérations fiscales nouvelles en Europe. De même que pour le cas de la Catalogne, la solution est pourtant simple. Il suffirait que l'impôt progressif sur les successions soit prélevé au niveau de l'Union européenne. Les sociaux-démocrates suédois n'ont jamais jugé opportun de faire des propositions allant en ce sens. Cela montre à quel point la social-démocratie du XXe siècle et du début du XXIe siècle est restée confinée à l'État-nation dans son agenda programmatique et idéologique. Certes, cela n'empêche pas la Suède de rester un pays plus égalitaire que les autres grâce à un système avancé d'assurance sociale, financé par des impôts et cotisations importants reposant sur la totalité de la population et à la qualité et la gratuité du système d'enseignement, y compris supérieur. Il reste que les abolitions de 2005-2007 ont contribué à l'accroissement des inégalités observées au sommet de la répartition des revenus et des patrimoines en Suède depuis 2000 et pourraient fragiliser à terme le modèle suédois. Par ailleurs, cette attitude non coopérative sur le plan international contribue à compliquer le maintien d'une fiscalité progressive dans les autres pays, aussi bien dans les pays riches que dans les pays pauvres et émergents. Ajoutons que le syndrome du petit pays est en passe de s'étendre à des États de plus grande taille, avec la montée en puissance des pays émergents et le développement à une échelle sans précédent de l'économie monde. Presque tous les pays sont sur le point de devenir petits à l'échelle du monde, à commencer bien sûr par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi que, dans une certaine mesure, les États-Unis. Pour beaucoup de responsables conservateurs, le choix du Brexit vise précisément à faciliter la reconversion du Royaume-Uni en paradis fiscal et en place financière peu régulée et peu regardante. Processus de reconversion post-industrielle qui est d'une certaine façon en cours depuis les années 1980. En l'absence d'une transformation de type social fédéraliste, le cours de la mondialisation risque fort de conduire à multiplier les trajectoires de ce type. Le piège social localiste et la construction de l'État transnational. Compte tenu des difficultés considérables liées à la voie sociale fédéraliste et à la construction d'une puissance publique transnationale, il peut également être tentant, pour certains mouvements politiques, de se concentrer sur une stratégie de type social localiste, consistant à promouvoir l'égalité et de nouvelles formes économiques alternatives au niveau local. Par exemple, le mouvement indépendantiste catalan comprend également, quoique de façon minoritaire, des groupes politiques marqués à gauche et considérant que la Catalogne peut être un meilleur échelon que le pouvoir madrilène pour impulser des expérimentations sociales nouvelles et accessoirement pour sortir du régime monarchique espagnol et s'inscrire enfin dans un cadre républicain. En l'occurrence, il est tout à fait possible que ces forces soient nettement débordées et dominées au sein d'un éventuel État catalan par les mouvances libérales conservatrices visant à promouvoir un modèle de développement très différent, de type paradis fiscal. Le fait de promouvoir un agenda social localiste est certes parfaitement légitime, d'autant plus que l'action au niveau local et communal offre des possibilités de redéfinir les rapports sociaux et les relations de propriété qui sont complémentaires à ce qui peut être réalisé au niveau centralisé. Il paraît toutefois important de l'inscrire dans un cadre plus général à visée sociale fédéraliste. Afin de clarifier les ambiguïtés entre les différentes formes de régionalisme catalan et de marquer sa différence avec ceux qui veulent simplement garder les recettes fiscales pour eux-mêmes et leurs enfants, il serait utile, par exemple, que la gauche républicaine catalane, pro-indépendance, précise qu'elle est en faveur d'un impôt progressif commun sur les hauts revenus et patrimoines, prélevé au niveau européen. Que la voie vers le social-fédéralisme soit complexe ne dispense pas pour autant de se prononcer clairement pour cette stratégie, bien au contraire. Ceci est d'autant plus indispensable que le social-localisme débouche sur des actions dont les limites apparaissent souvent assez évidentes, si elles ne sont pas complétées par des régulations et des politiques conduites à un niveau plus élevé. Prenons par exemple le cas de la mobilisation contre Google, menée récemment à Berlin. Suite à cette mobilisation, Google a finalement décidé de renoncer en octobre 2018 à l'installation d'un campus dans le quartier de Kreuzberg. Le projet, comme il en existe déjà à Londres, Madrid, Séoul, Sao Paulo, Tel Aviv et Varsovie, devait occuper une ancienne usine électrique en briques rouges et proposer des rencontres, des événements et des formations professionnelles dans le secteur du numérique. Les associations locales rassemblées dans le collectif « Fuck off Google » dénoncèrent avec force la spéculation immobilière, les hausses de loyers et les expulsions de familles à revenus modestes qui allaient en découler dans ce quartier déjà en voie de gentrification, tout cela venant d'une société pratiquant l'évasion fiscale à grande échelle et ne payant quasiment aucun impôt dans les pays où elle réalise ses profits, en particulier en Allemagne. L'affaire fit grand bruit à Berlin, où les chrétiens démocrates de la CDU dénoncèrent de leur côté le climat hostile aux entrepreneurs, diffusé selon eux par les sociaux-démocrates du SPD, Die Grünen et le parti de gauche Die Linke, coalition au pouvoir dans la capitale allemande, qui s'en défendirent. Ce type de mobilisation pose des questions complexes. Il est certes passablement insupportable d'entendre la CDU parler d'entrepreneurs au sujet d'entreprises ne payant quasiment aucun impôt, d'autant plus que ce parti politique a été à la tête du gouvernement fédéral de l'Allemagne, première puissance économique européenne, tout au long de la période 2005-2019 et n'a rien fait pour changer cet état de fait. En même temps, il est bien clair que les mobilisations locales de cette nature ne suffisent pas, car d'une part, il existera sans doute d'autres villes et communautés qui accepteront de recevoir un Google Campus, et d'autre part, le véritable enjeu est de pouvoir imposer et réguler les sociétés de cette taille au niveau européen. Or, le SPD, Die Grünen et Die Linke n'ont à ce jour jamais proposé de plateforme d'action commune permettant de transformer les institutions européennes en vue de pouvoir, par exemple, adopter un impôt commun sur les bénéfices des plus grandes sociétés au niveau européen ou au minimum au niveau franco-allemand ou du plus grand nombre de pays possibles. Ne s'en tenir qu'au social-localisme et refuser de s'allier sur une base sociale fédéraliste ambitieuse fournit en outre des angles d'attaque particulièrement efficaces. Dans d'autres contextes, en particulier aux États-Unis, il est parfois plus aisé d'allier l'engagement social localiste et social fédéraliste. Alexandria Ocasio-Cortez, dite AOC, nouvelle représentante démocrate de l'État de New York au Congrès fédéral états-unien depuis novembre 2018 et membre des Democratic Socialists of America, s'est ainsi illustrée dans la bataille contre l'installation du nouveau quartier général d'Amazon à Brooklyn. Comme à Berlin, le mouvement s'est notamment focalisé sur le fait que la compagnie non seulement ne payait quasiment aucun impôt sur ses profits, mais s'apprêtait à recevoir de très généreux subsides publics à la suite d'une mise en concurrence de nombreuses villes intéressées pour accueillir ses activités. Le refus d'Amazon d'envisager la moindre présence syndicale au sein de ses établissements a également contribué à exacerber le conflit, qui s'est conclu par l'abandon du projet par la compagnie en janvier 2019. Sans surprise, les groupes de pression républicains et trumpistes se sont déchaînés contre AOC. À la différence des militants berlinois, des élus comme AOC ont cependant la possibilité aux États-Unis de défendre des politiques permettant de réguler les grandes entreprises et de mettre en place des impôts plus progressifs au niveau fédéral, ce qu'ils ne se privent pas de faire. AOC soutient notamment un taux supérieur à 70% sur les plus hauts revenus. Dans le contexte européen, en revanche, la possibilité même d'une plateforme sociale fédéraliste exige de se mobiliser dans le même temps pour une transformation des institutions européennes et de bâtir des coalitions transnationales dans cette perspective.